Vous écoutez, on lit pour vous.
Qui se laisse séduire par les fausses nouvelles? Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 11 mai 2025 dans la presse. Les jeunes de la génération Z, les femmes, les personnes d'allégeance conservatrice et les gens moins instruits sont plus susceptibles de se laisser séduire par les fausses nouvelles, révèle une vaste étude internationale. Les gens plus instruits, eux, surestiment leur capacité à déceler la désinformation, signale un co-auteur de l'étude. Plus jeunes, plus conservateurs. Une récente étude réalisée auprès de plus de 66 000 personnes dans 24 pays montre que certains groupes sont particulièrement à risque de tomber dans le piège des fausses nouvelles. Les résultats montre que la génération Z, les gens nés entre 1997 et 2012, les individus non masculins, les gens moins instruits et les gens plus conservateurs étaient plus vulnérables à la désinformation, écrivent les chercheurs de l'étude intitulée « Profiling, Misinformation Susceptibility » parue dans la revue « Personality and Individual Differences ». Vrai ou faux? Pour réaliser leur étude, les chercheurs ont demandé aux répondants de lire une série de titres d'articles et de dire s'il s'agissait d'une fausse nouvelle ou bien d'une nouvelle crédible. Parmi les titres, on comptait « Les gens de gauche sont plus susceptibles de mentir pour obtenir une bonne note. » Des représentants du gouvernement ont manipulé les cours des actions pour dissimuler des scandales. Le gouvernement dissémine délibérément des maladies par les ondes et les aliments, ou encore, les Nations unies reçoivent des avis majoritairement positifs de la part des citoyens du monde entier. Moins de discernement. Fait intéressant. Les chercheurs ont aussi questionné les répondants sur leur niveau de confiance en leur capacité à identifier la désinformation. Ils ont ainsi découvert que si les jeunes et les femmes étaient particulièrement précis dans l'évaluation de leur capacité, la capacité perçue des conservateurs extrêmes était peu liée à leur discernement réel de la désinformation. Universitaire berné. Les personnes ayant fait des études universitaires ont obtenu de meilleurs résultats que les répondants ayant fait de moins longues études. Mais elles ont aussi surestimé leur capacité à identifier la désinformation, note en entrevue Friedrich M. Goetz, professeur adjoint au département de psychologie de l'Université de la Colombie-Britannique et co-auteur de l'étude. Ces résultats nous ont surpris, surtout qu'ils ressortent parmi les 66 000 personnes et les 24 pays représentés dans notre étude. Toutefois, ce n'est pas nouveau. L'idée que les personnes douées pour quelque chose puissent penser qu'elles sont meilleures qu'elles ne le sont en réalité est aussi vieille que l'humanité elle-même. Cela nous rappelle que nous sommes tous vulnérables, peu importe nos compétences, notre niveau d'instruction ou nos réalisations. Conditions préalables. Les chercheurs ont également réalisé que, toutes générations confondues, la génération Z percevait sa capacité de discernement de la désinformation avec la plus grande précision, malgré ses plus mauvais résultats au test. Détecter la désinformation est à la fois une responsabilité sociale et individuelle, dit M. Goetz. À cette fin, la prise de conscience de sa propre vulnérabilité que nous observons chez de nombreux jeunes adultes aujourd'hui et le désir de faire quelque chose pour y remédier sont des conditions préalables essentielles pour ne plus se laisser berner. Comment ne pas se faire prendre? Comment faire pour ne pas se faire berner par de fausses nouvelles? Déjà, être conscient du phénomène et être sceptique des informations, surtout celles qui semblent confirmer nos opinions, est une bonne chose, note M. Goetz. Prenez le temps de vérifier vos sources et ne prenez pas tout pour de l'argent comptant. Faites l'effort de vérifier les affirmations qui vous paraissent incroyables et ne tombez pas dans le piège des théories du complot. Rattachés à l'Université de Cambridge, des co-auteurs de l'étude ont aussi mis au point un moyen amusant d'améliorer sa capacité à distinguer les vraies nouvelles des fausses nouvelles. Le Bad News Game. C'est un jeu interactif primé qui enseigne aux joueurs les techniques et les mécanismes qui sous-tendent la diffusion des fausses nouvelles. Ça leur permet d'endosser le rôle d'un magnat des fausses nouvelles qui essaie de faire grimper son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, note M. Goetz. C'était « Qui se laisse séduire par les fausses nouvelles », un texte de Nicolas Bérubé, paru le 11 mai 2025 dans La Presse.
Au Québec, peut-on vivre du théâtre sans s'user à la corde? Un texte de Catherine Lalonde paru le 21 mai 2025 dans Le Devoir. On ne fait pas d'argent en jouant du théâtre au Québec. Si l'on en fait peu, résume Tania Cantuiani, présidente de l'Union des artistes, UDA. Elle n'est pas la seule à le penser. Ils sont nombreux à le vivre. Au Québec, peut-on vivre des planches sans s'user à la corde? Oui, mais ça dépend de notre rôle dans la machine. La comédienne Ève Pressot a vécu en 2023-2024 une année théâtrale exceptionnelle. C'est rare d'avoir au moins 4 propositions pour un an, et là j'ai joué dans 6 spectacles, raconte-t-elle, tous des rôles principaux, tous sur des scènes importantes. J'ai travaillé 12 mois sans arrêt, résume la comédienne qu'on a pu voir entre autres dans Trop humain, Wollstonecraft, Tous deux au Katsu, Limbo au Prospero et Mon corps ébloui, debout, au théâtre d'aujourd'hui. Résultat, avec 6 spectacles, j'ai fait 42 000 $, chiffre-t-elle. C'est 100% de ses revenus. Selon l'Institut de recherche et d'information socio-économique, un Montréalais seul doit avoir un revenu disponible annuel de 40 084 $ pour que celui-ci soit considéré comme viable. Madame Pressot est mère en garde partagée d'un grand jeune du secondaire. La comédienne poursuit son travail uniquement sur les planches grâce à un héritage reçu de son père. Ma réflexion actuelle, c'est qu'est-ce que je peux me trouver comme job sideline en même temps que ma pratique et qui laisserait assez de liberté pour encore jouer? Prendre racine. Parler d'argent au théâtre est un sujet compliqué, délicat, précise le metteur en scène, commissaire et acteur Christian Lapointe, car le milieu est un écosystème où tous les intervenants sont interdépendants. Aucun théâtre ne fait de l'argent au Québec. Et les théâtres ne peuvent pas donner des sous qu'ils n'ont pas, explique-t-il. On peut quand même se demander ce qu'ils font avec les sous qu'ils ont. Mènent-ils un véritable projet artistique ou un projet de gestion auquel l'artistique est inféodé et où les artistes, les personnes les moins payées de cette chaîne, sont comme du minerai, du simple charbon nécessaire pour nourrir la machine? Selon lui, le théâtre nourrit toute une chaîne qui part des étudiants, car il n'y a pas d'école de jeux télévisuels ou cinéma au Québec, et dont les maillons se rendent à nos vedettes télé, jusqu'à l'audiovisuel, si cher au gouvernement, et jusqu'à la créativité québécoise qui rayonne dans les grands stades du monde par le travail des Moment Factory et compagnie, continue M. Lapointe. Deus es machina d'un arte povera. Tania Cantuiani, présidente de l'UDA, tire une leçon sur les fins et les moyens. Les artistes sont en train de dire que peut-être que tous ces théâtres n'ont plus les moyens de faire du spectaculaire, si ce n'est sur notre dos. peut-être qu'il faut arrêter d'en faire et rémunérer plus dignement les acteurs que de leur mettre des costumes majestueux qui coûtent plus cher que tout mon cachet. L'entente collective entre l'UDA et Théâtre Associé est échue. Les négociations doivent débuter prochainement. C'est dans les années 1990 que la dernière refonte majeure a eu lieu. Elle a permis l'intégration du paiement des répétitions qui n'était jusque-là ni payé ni encadré, selon l'UDA. Elle pouvait se tenir le soir, la fin de semaine, sans respect des horaires ni heures supplémentaires rémunérées. Plusieurs intervenants ont précisé qu'il fallait regarder l'ensemble du contrat, qui constitue un tout, et pas seulement le taux horaire des répétitions ou le cachet pour chaque représentation. D'accord, le salaire plancher pour les répétitions est de $17,77 l'heure si l'acteur joue dans une salle de 199 spectateurs ou moins, comme le Katsu, la Licorne ou le Prospero. Pour une salle de 600 à 899 spectateurs, telle que celle de Duceppe ou du Théâtre du Nouveau Monde, TNM, c'est au moins $20,50 l'heure. Le salaire horaire minimum au Québec est actuellement de $16,10. Pour un premier rôle, 120 heures de répétition sont minimalement garanties, 50 heures pour les petits rôles. Selon les informations que Le Devoir a récoltées, on répète rarement plus ces temps-ci. Apprendre le texte par cœur, ce n'est pas rémunéré. Et les spectacles? Un premier rôle dans une petite salle engendrera $150 par soir pour moins de 30 représentations. Dans les plus grandes salles, ce sera au moins $246. Les titulaires des plus petits rôles seront assurés de faire $90 par soir dans une petite salle. Certains théâtres offrent évidemment plus que ces salaires et tarifs planchers, mais les répétitions sont si peu payées que c'est aux représentations que tu renfloues tes coffres, explique Eve Presseau. Avant, on jouait de 4 à 6 semaines. Avec cette crise, on voit de plus en plus souvent seulement 15 représentations. C'est beaucoup de travail pour pas beaucoup d'argent. Elle enchaîne en notant que les théâtres sont capables de sortir de l'argent pour des vedettes. Rémi Girard ne reçoit clairement pas $300 par représentation quand il joue au TNM. Et je suis absolument d'accord que des artistes arrivent finalement à très bien vivre. C'est la disparité et l'iniquité qui me frustrent, note-t-elle. Le concierge d'un théâtre a son augmentation de salaire aux 2 ans. Et ça aussi, je suis d'accord, mais pas nécessairement les artistes qui y reviennent. C'est toujours à l'acteur de faire le compromis financier. Un art capital. Moi, j'ai réalisé que ça n'avait pas d'allure le jour où, pendant que je travaillais un premier rôle dans un des grands théâtres de Québec, je suis descendu un matin à Montréal pour faire une voix, raconte le comédien Steve Gagnon. J'ai fait le même montant en un après-midi en prêtant ma voix à une pub de rasoir que pour toute la run des répétitions et des shows. C'était un gros rôle, dans un show attendu. Son contrat de théâtre le plus lucratif à ce jour? Jouer Albert Camus au TNM, dans « Je t'écris au milieu d'un bel orage » aux côtés d'Anne Dorval. C'est mon plus gros contrat de théâtre, un très grand rôle. 2 acteurs sur scène pendant 2 heures, énormément de textes à apprendre, à travailler pour rendre la pensée limpide et incarnée. J'ai fait autour de $15,000 en tout. C'est le meilleur salaire que j'ai eu à ce jour. Mais j'ai travaillé pendant 6 mois, j'ai presque tout lu Camus, c'était nécessaire. Pour ce père de 2 enfants, même s'il avait la chance de cumuler 2 contrats Klondike en 1 année, ça demeurerait serré financièrement. Il complète son gagne-pain en faisant des voix qui prennent 5% de son temps pour produire 75% de ses revenus. Quelques 15% se font à la télé et 7% au théâtre, qui prend 50% de son temps. Travailleurs autonomes contractuels, les acteurs arrivent ainsi à vivre en jonglant avec des montages financiers imaginatifs. publicité, voix, doublage, enseignement, médiation, restauration, etc. Devrait-il être possible de vivre décemment uniquement du théâtre au Québec? C'est quand même incroyable que, dans notre métier, on soit encore en train de se battre pour avoir un salaire, a lancé à la volée Pénélope Derèche-Dallaire, actrice, autrice et metteuse en scène. Pas pour avoir une augmentation, mais pour avoir juste un salaire. C'était « Au Québec, peut-on vivre du théâtre sans s'user à la corde? » un texte de Catherine Lalonde, paru le 21 mai 2025 dans Le Devoir.
La rage de Fernand Vancereau dans le documentaire « À la lumière du soir », un texte de Jean-François Nadeau, paru le 5 mai 2025, dans Le Devoir. À 97 ans, Fernand Vancereau lance « À la lumière du soir », un film qui constitue le dernier volet d'une trilogie sur le vieillage. J'ai essayé de dire quelques petites choses utiles, dit en souriant doucement cet homme à qui le grand public doit des téléromans comme « Le Parc des Braves », »,« Les filles de Caleb » ou encore « Caserne 24 ». Derrière chez lui, où il me reçoit, se trouve un ancien domaine religieux abandonné. Des pommiers matures y sont laissés à eux-mêmes. « Il faudrait que quelqu'un s'occupe au moins d'entretenir les arbres », constate-t-il. « C'est triste ». La joie, l'amour. Pour Vancereau, le sens de la vie tient à une action déterminée, réfléchie. Je me suis rendu compte que le fait de réaliser des choses, comme cinéaste, comme peintre, ou encore de simplement téléphoner à un ami, le fait en somme de réaliser quelque chose de concret, m'aide à vivre. Il écrit aussi « Le cœur en colère », un roman inspiré de la vie de son père durant la guerre de 1914-1918, qui est lancé lui aussi ces jours-ci. Créer lui apparaît plus que jamais salutaire. Pour moi, l'acte créateur, si petit soit-il, me procure un sentiment de joie. C'est toujours générateur de quelque chose. Cette joie, elle fait alors partie de moi. Il a voulu en parler dans « À la lumière du soir » en poursuivant à sa façon son examen de ce que signifie le grand âge. En vieillissant, j'ai découvert au moins que le bonheur s'agrandit en cultivant l'amour, de soi d'abord, en l'élargissant ensuite aux autres. L'amour donne un sens à la vie. Et dans cette perspective, la vieillesse n'a pas à être un naufrage, dit-il. La question de la religion et de la foi le hante-t-elle? Non, affirme-t-il. Pourtant, il en est beaucoup question dans ce film où défilent ses petits-enfants aussi bien que Denis Arcand, Marcel Sabourin, Guy Rocher, Micheline Langteau, Jeannette Bertrand et quelques autres têtes connues. Ces derniers ont en commun un âge avancé, mais aussi des conditions de vie avantageuses. D'emblée, j'avoue que ce sont tous des gens privilégiés qui apparaissent à l'écran. Je ne m'en excuse pas, parce que j'ai beaucoup parlé ailleurs de questions sociales dans ma vie. Il n'en demeure pas moins entendu que vivre à un âge avancé, mais dans la pauvreté, constitue une autre paire de manches, dit-il. Une grande question. La religion est une grande question. Mon sentiment est que toutes les religions construisent un édifice qui finit par se changer en une institution sociale, ce qui génère la multiplication des idoles. Peut-être le bouddhisme a-t-il échappé à cela, croit-il. J'ai convoqué des gens qui avait une expérience spirituelle, j'ai la conviction qu'il y a un grand mystère de la naissance de l'univers. D'une certaine façon, on rétrécit la dimension de ce mystère lorsqu'on essaie de l'encadrer par une foi religieuse. Fallait-il passer la foi par-dessus bord dans un dessein national? Je ne soutiendrai pas que la laïcité est la gardienne de la langue française. La survie de la langue, cela dépend des Québécois eux-mêmes. C'est tellement facile aujourd'hui, pour des raisons culturelles, de passer à l'anglais. Reste un fait, l'image de Dieu lui déplaît. Cette ressemblance avec l'image du père, du paternel, du super-papa qui contrôle tout, je m'en méfie. La rage. Alors pourquoi la question de la foi apparaît-elle dans son film telle une sorte de point focal? Son visage s'obscurcit. Enfoncé dans son fauteuil, Dansereau convoque le silence. Puis, il dit, en mordant dans chaque syllabe, « la rage ». On m'a envoyé au collège de Lévis en 1939. Il fallait se confier aux soins d'un directeur de conscience. Le mien m'a imposé une charge spirituelle énorme. J'en porte encore la trace. Il disait que j'appartenais à une catégorie d'élite, bonne pour la hiérarchie catholique, pour l'archevêché. Ce qui le conduisait à m'imposer une rigueur pas possible. À 14 ans, je devais lire Saint Jean de la Croix. La famille Dansereau, jusqu'à ce que la guerre de 1939 éclate, appartenait à la grande bourgeoisie. À la maison, dit-il, il y avait 5 domestiques, dont une cuisinière. Ma mère allait jouer au golf. Son père, très occupé par ses affaires et sa carrière, travaille pour la Dominion Bridge. Il est actif lors de la construction des piles du pont Jacques-Cartier, se désolant de perdre des ouvriers noyés. Au collège, Dansereau avait obtenu la permission de suivre, le soir, des cours spéciaux d'espagnol. J'étais assise sur une banquette avec une jolie jeune fille aux cheveux noirs que je cultivais un peu. Elle m'avait dit être la fille d'un médecin. Son directeur spirituel lui interdit de continuer ses cours au prétexte que cette jeune fille est une voleuse de vocation. J'ai trouvé une arme absolue pour me sortir de là. J'ai affirmé avoir perdu la foi. Il m'a obligée à me tenir droit durant des mois sans m'appuyer sur les dossiers de chaise. Cela était censé ramener ma foi en me faisant souffrir un peu. Et cette jeune fille? J'ai cherché dans le bottin téléphonique pour retrouver sa famille. Aucun médecin ne portait ce nom. Mais un boucher, oui. Alors j'ai téléphoné chez le boucher pour voir. Et c'est elle qui m'a répondu. Autrement dit, elle m'avait menti, ce qui m'a éloigné d'elle. Par la suite, il retrouvera quelque peu la foi avec sa première épouse, de même qu'au contact de la jeunesse étudiante catholique où militait Gérard Pelletier, un futur cofondateur de la revue Cité Libre. Journaliste. Dans les années 1950, il devient journaliste au Devoir. Le rédacteur en chef, André Laurendeau, est un grand ami de son cousin, l'écologiste Pierre Dansereau. Il ignorait jusque-là, jure-t-il, appartenir à une famille illustre des médias. Deux de ses oncles, Lucien et Fernand, s'étaient trouvés à la tête de journaux comme La Presse et l'Illustration Nouvelle. Ce dernier imprimé devint le Montréal Matin, journal associé à Duplessis. Son grand-père maternel, Louis Larrivé, était pour sa part lié à un autre journal, le Montreal Star. Au Devoir, Dansereau se voit confier la vigie du monde ouvrier. je me suis enflammée pour les questions syndicales. Pour tenir tête à Duplessis, le directeur de l'époque, Gérard Filion, devait être raide. Lorando était beaucoup plus agréable. Nous discutions beaucoup ensemble. J'étais fière d'appartenir à un journal de gauche et révolutionnaire. Fernand Dansereau sourit. Il ne l'était pas, bien sûr. Mais il était décrit comme ça par des gens qui s'opposaient aux idées qu'il défendait. Dansereau finira par être mis à la porte du Devoir. Les typographes du journal étaient en grève. Moi, comme chroniqueur syndical, je n'allais tout de même pas franchir la ligne de piquetage. J'avais convaincu quatre de mes collègues de faire comme moi. Filion va tous les congédier. La CTCC, l'ancêtre de la CSN, avec l'aide de Gérard Pelletier, nous avait fait bénéficier d'un fonds de secours. Reste que Dansereau se retrouve sans emploi. Coup de chance, l'Office national du film, ONF, cherche un journaliste pour un projet. Sa vie va basculer du côté du cinéma. Il va bientôt avoir sous sa charge plusieurs têtes fortes, dont Pierre Perrault, Gilles Groux, Pierre Patry et Hubert Aquin. Il sera le producteur du célèbre « Pour la suite du monde ». Avec Pierre Perrault, précise-t-il, on a toujours eu de mauvaises relations. Il ne supportait pas que je lui ai adjoint Michel Brault. Quand je suis arrivée, tout devait être scripté sur des formulaires de l'ONF. Il fallait dire quelle focale serait utilisée par la caméra, une 50 mm, une 28 mm, quelle scène, avec quelle parole précise, serait prononcée. C'était un monde coincé, formaté. Il se dit heureux d'avoir contribué à le libérer. J'avais du caractère, j'avais de l'énergie, de l'idéal, je voulais inventer un monde nouveau, comme bien des jeunes. C'est le printemps. Derrière la maison de Fernand Dansereau, les pommiers vont bientôt fleurir. Chaque année, ces vieux arbres montrent qu'ils savent encore donner de nouveaux fruits. C'était La rage de Fernand Dansereau dans le documentaire À la lumière du soir, un texte de Jean-François Nadeau, paru le 5 mai 2025 dans Le Devoir.